le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je vais vous parler de liberté d'expression. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression ? C'est le fait de pouvoir s'exprimer, partager ses opinions, diffuser des informations, sans répression, librement, sans prendre de risques, sans être exposé à des violences physiques ou du harcèlement. Amnesty recense de plus en plus de cas de journalistes arrêtés et emprisonnés. Par exemple, le 15 septembre dernier, Khaled Drareni a été arrêté et condamné à 2 ans d'emprisonnement en juridiction d'appel. Il avait été condamné à 3 ans en première instance la semaine précédente. Son crime, c'était d'avoir couvert et médiatisé le Hirak, ce mouvement de manifestation populaire contre la politique de Bouteflika en Algérie, depuis février 2019. Khaled Drareni est un journaliste algérien devenu le symbole de la liberté de presse et de la liberté d'expression au sein du mouvement. Il est correspondant pour TV5 Monde et pour l'ONG Reporters sans frontières. Lors de son procès, il est aussi accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité nationale. Mais Khaled Drareni n'est pas le seul dans ce cas. Tufik Hassani, un ancien policier devenu une figure importante du Hirak, a également été condamné récemment à 2 ans d'emprisonnement. Il a été accusé de menaces sur des agents de police et divulgation de secrets professionnels sur Facebook, selon le Comité pour la libération de détenus. Tufik Hassani avait déjà été inculpé pour atteinte à l'intégrité nationale. Ces accusations décrivent de façon très péjorative de simples actes journalistiques de diffusion d'informations et la participation à des manifestations. Une 50aine de personnes, journalistes, opposants, militants, internautes, sont également emprisonnés pour des motifs similaires. L'État algérien fait tout pour réprimer le mouvement du Hirak et éviter qu'il ne reprenne après le Covid-19. La liberté d'expression est mise à l'épreuve dans plusieurs pays, toujours de plus en plus nombreux. On réduit au silence les journalistes qui tentent de mettre en lumière des activités de certains États, que ce soit en Algérie, mais aussi en Chine, aux USA ou en Europe. Le droit à informer, qu'invoque notamment Khaled Drareni lors de son procès, est de plus en plus mis à mal. Et c'est une inquiétude qu'Amnesty partage avec d'autres ONG comme par exemple Reporters sans frontières. À différentes échelles et à différentes intensités, les violences et la répression dont sont victimes les journalistes n'est pas acceptable. Et Amnesty se donne pour mission, avec votre aide, d'obtenir des droits et des protections pour les journalistes, ou du moins, pour ce qui est de la France, de conserver ces droits qui semblent également chez nous en danger. En Algérie, c'est aussi sur Internet que la liberté d'expression est restreinte. Plusieurs sites de journaux indépendants ne sont plus accessibles ou sont censurés, par exemple. La surveillance de plus en plus accrue sur Internet met en danger ce droit à la liberté d'expression, en cela qu'il empêche certaines personnes de diffuser des informations importantes sur des actes commis par certains gouvernements. C'est en Chine, par exemple, que de nombreux blogueurs et blogueuses sont arrêtés et emprisonnés, dans des conditions souvent très difficiles, coupés de leurs proches, et sans la possibilité de faire appel à un avocat. Les médias indépendants sont souvent pris pour cible par des gouvernements répressifs. Pourtant, le droit d'exprimer librement son opinion et de diffuser des informations fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le droit international est censé également garantir cette liberté. Afin de nous aider à faire respecter ce droit, vous pouvez signer notamment la pétition pour libérer Khaled Drareni ainsi que les autres opposants et opposantes politiques à sortir de prison en Algérie sur notre site internet. On continue avec le traité d'échange des armes qui a été signé par plusieurs pays membres de l'Union européenne et qui est entré en application en 2014. À quoi correspond ce traité exactement ? En fait, il oblige les États à faire un rapport annuel sur l'importation et l'exportation des armes. Il permet ainsi plus de transparence. Il a été créé pour prévenir la vente ou l'achat d'armes à ou par des pays dont le territoire est un lieu de guerre et où l'échange d'armes faciliterait des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Les pays doivent donc évaluer les risques avant tout échange d'armes ou de munitions pouvant contribuer à de sérieuses violations des droits humains. Cela permet donc plus de transparence. Les États doivent produire un rapport complet et exhaustif des échanges et transferts d'armes qu'ils ont effectués. Concernant ce traité, la France a déclaré qu'il permet une excellente transparence au sein de la communauté internationale et auprès de la communauté civile. La France confirme également donner la plus grande importance au traité d'échange des armes et met l'emphase sur le fait d'accroître la transparence concernant les échanges internationaux d'armes. Or, Amnesty remarque un grand manque de transparence de la part de la France dans ses rapports et une activité commerciale qui facilite la violation de droits humains dans de nombreux pays. En effet, la France dans ses rapports se base sur des critères du registre des Nations Unies sur le transfert des armes. Ces critères sont beaucoup moins exhaustifs et ne prennent pas en compte les mêmes catégories d'armes et ne fait pas non plus mention de la quantité et du type d'armes transférées. Ceci engendre donc des rapports biaisés. Ainsi, en comparant les rapports présentés par la France et ceux d'autres pays, on remarque que cette dernière garde le silence sur de nombreuses catégories d'armes ainsi que leur quantité. Les chiffres produits sont donc plus bas que la réalité. Ce fait est renforcé par la politique de la France à ne pas rendre public certains chiffres sur le trafic d'armes. En fait, le ministère des Affaires étrangères n'envoie pas son rapport à toutes les commissions européennes concernées, mais seulement au secrétariat du traité sur le transfert des armes. De plus, la France ne communique qu'un rapport essentiellement économique aux instances concernées, soit la Commission européenne des affaires étrangères et des forces armées, mais pas le rapport exigé par le traité, où doit figurer la quantité et le type d'armes. Or, ces deux rapports sont censés être complémentaires, donc tout le monde devrait y avoir accès. Sans compter que la France rend son rapport systématiquement en retard. L'exportation déclarée par la France ne représente en aucun cas une liste exhaustive ou précise de son activité au sein du transfert des armes. Elle a délibérément omis certaines informations. Ceci est vrai autant pour les armes légères que pour les armes lourdes. Par exemple, de 2015 à 2018, la France a omis de déclarer 4305 armes légères à l'exportation, qui elles ont été déclarées par les autres pays. La France n'en déclare que 9005 au lieu de 13310. Or, l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, la Lituanie, le Mali, la Moldavie, les Pays-Bas, le Portugal, la Nouvelle-Zélande, la République de Macédoine du Nord, la Slovaquie et la Suisse déclarent l'importation sur leur territoire d'armes françaises en quantité plus importante que ce que déclare la France à l'exportation. De même pour l'exportation d'armes lourdes, la France n'a pas déclaré l'exportation de 73 armes lourdes, dont 14 véhicules de combat au Mali. C'est le rapport du pays importateur qui révèle cet oubli. Il s'agit de véhicules de combat armés produits par l'entreprise Acmat, dont le propriétaire est Renault Trafic. Également 6 véhicules de combat à la Roumanie, un vaisseau de guerre à la Belgique et 3 pistolets 105 mm aux Pays-Bas. En 2015, un hélicoptère d'attaque a été vendu à la Suède et ce dernier n'a pas non plus été déclaré par la Suède. Et c'est un rapport d'Airbus Hélicoptère qui révèle cette transaction. Encore en 2015, la France ne déclare pas 48 missiles exportés au Liban à la base aérienne de Beyrouth sous prétexte que le Liban ne fait pas partie des pays signataires du traité. D'autres armes lourdes non déclarées par la France mais par les pays importateurs ont été transférées au Sénégal, en Hongrie et au Tchad. Ainsi, la France fait preuve d'un grand manque de transparence dans ses rapports, mais les déclarations des autres pays sont révélatrices d'une activité commerciale plus importante et qui met en danger les droits humains sur des territoires à risque. La France se rend ainsi complice d'activités criminelles ou qui mettent en danger les droits humains, facilitant les crimes de guerre par exemple. Le rapport produit par Amnesty Grande-Bretagne, disponible sur le site internet d'Amnesty, fait état d'une activité dangereuse à l'égard des droits humains. La France est tenue de rendre compte de son activité commerciale et vous pouvez nous aider à faire en sorte qu'elle ne soit plus complice de crimes dans de nombreux pays en vous rendant sur le site d'Amnesty International. On continue sur Radio FM+, avec Navid Afkari, qui est un champion de lutte de 27 ans, qui a été exécuté dans le plus grand secret à l'issue d'un procès à l'iniquité flagrante. Il s'agissait d'une parodie de justice. Ce samedi 12 septembre 2020 au matin, en Iran, Navid Afkari a été exécuté sans que sa famille, son avocat ni lui-même n'aient été prévenus. Navid Afkari était un jeune homme promis un brillant avenir. L'application de sa peine de mort avec un tel mépris pour les principes les plus élémentaires de la justice met en évidence une fois de plus la cruauté de ce châtiment. Plusieurs juges de différents tribunaux se sont appuyés sur des aveux obtenus sous la torture pour le déclarer coupable et aucun d'eux n'a diligenté d'enquête sur ces allégations de torture. Avant d'être exécuté en secret, Navid Afkari a été victime d'une disparition forcée, de torture et d'autres mauvais traitements, tous plus choquants les uns que les autres. Cela a abouti à ses aveux forcés, ainsi que la privation d'avocats et d'autres éléments garantissant l'équité des procès. Ce jeune homme a désespérément appelé à l'aide au tribunal afin de pouvoir bénéficier d'un procès équitable et prouver son innocence. Dans des enregistrements vocaux diffusés officieusement, on l'entend supplier les juges d'enquêter sur des allégations de torture et de citer à comparaître un autre détenu qui a assisté aux tortures. Malheureusement, ces demandes ont été ignorées, ce qui est à la fois cruel et illégal. Avant son exécution, un autre enregistrement vocal provenant de la prison a été diffusé, dans lequel il disait « Si je suis exécuté, je veux que vous sachiez qu'un innocent, bien qu'ayant lutté de toutes ses forces pour être entendu, a été exécuté. » Navid Afkari a été arrêté le 17 septembre 2018. Il a été condamné à mort à deux reprises. La première fois par un tribunal pénal à titre de Kissas, réparation, et la seconde par un tribunal révolutionnaire pour Mohareb, inimité à l'égard de Dieu. Et ce pour l'homicide d'un agent du renseignement qui a eu lieu le 2 août 2018 à Shiraz. Ses frères Vahid et Habib ont été condamnés respectivement à 56 ans et 6 mois et à 24 ans et 3 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à 74 coups de fouet chacun dans le cadre de la même affaire d'homicide. Les trois frères ont fait l'objet de plusieurs procédures pénales, toutes manifestement indiquent et reposent sur des aveux forcés qui, selon eux, ont été obtenus sous la torture. Les trois frères ont toujours clamé leur innocence. Le 5 septembre 2020, les aveux forcés de Navid Afkari ont été diffusés à la télévision d'État par l'organe de télédiffusion de la République islamique d'Iran dans une vidéo de propagande. L'objectif de cette vidéo était de justifier la condamnation à mort de cet homme et de détourner l'attention des graves allégations de torture et d'autres formes de mauvais traitements qu'il a formulées. L'Iran est un des pays qui pratique le plus la peine de mort. C'est pourquoi Amnesty International demande régulièrement à la communauté internationale, y compris des organes tels que l'Union européenne ou les Nations unies, d'intervenir avec fermeté dans le cadre d'interventions publiques ou privées. Vous êtes toujours sur Radio FM+, et on continue avec les droits humains envers les migrants. Amnesty a en effet reçu des signalements faisant état d'hystérectomie pratiquée sur des migrants détenus dans le centre de détention du comté d'Irwin, en Géorgie, aux États-Unis. L'hystérectomie est une opération qui consiste en l'ablation de l'utérus, c'est en fait une stérilisation. Amnesty est donc extrêmement inquiète suite au signalement d'hystérectomie pratiqué sur des femmes détenues dans ce comté sans leur plein consentement. Selon les informations dont nous disposons, certaines femmes n'auraient pas clairement compris pourquoi et pour quelles raisons l'intervention était effectuée ou n'auraient pas été pleinement informées quant aux actes qu'elles devaient subir. Les États-Unis ont déjà malheureusement pratiqué dans leur histoire la stérilisation forcée, notamment sur des femmes de peuples autochtones, des femmes noires pendant la ségrégation et d'autres femmes de couleur pendant la guerre. En plus d'enfreindre les droits à la santé et à la sécurité, ainsi que les droits sexuels et reproductifs des personnes, la stérilisation forcée peut constituer un crime contre l'humanité au regard du droit international. Personne ne devrait avoir à subir ça sans avoir donné son plein consentement et on ne devrait pas être détenu lorsqu'on demande l'asile. Il y a urgence et c'est pourquoi Amnesty International demande au Congrès et au département de la sécurité intérieure d'ouvrir une enquête sur ces allégations. L'atrocité de cette pratique démontre que la détention de personnes migrantes doit cesser aux États-Unis. Nous renouvelons donc notre appel auprès de l'administration pour la libération des personnes détenues dans des centres de détention pour personnes migrantes. Et vous pouvez nous aider en signant la pétition sur notre site internet. Mais en France, les droits des migrants ne sont pas en reste. En effet, près de 1500 personnes exilées survivent à Calais dans des conditions indignes. Elles sont quotidiennement expulsées de leur lieu de vie, privées de leurs effets personnels, dispersées dans la ville. Et pire encore, selon un nouvel arrêté, certaines associations qui leur viennent en aide ne peuvent plus distribuer de nourriture. En effet, le 10 septembre 2020, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté qui interdit toute distribution gratuite de boissons et de denrées alimentaires sur un périmètre conséquent de la ville de Calais pour les associations qui ne sont pas mandatées par l'État. C'est une décision grave. Sous divers prétextes, troubles à l'ordre public, non-respect des gestes barrières ou déchets sur la voie publique, le ministre de l'Intérieur interdit ainsi toute action humanitaire non mandatée. Les associations et les citoyens qui œuvrent auprès des personnes migrantes et exilées de notre société, la solidarité, la fraternité et l'aide aux plus fragiles. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les personnes et associations qui viennent en aide aux exilés ont un rôle plus que jamais essentiel. Rien ne peut justifier que soient restreintes, voire supprimées, des aides qui ont pour but de satisfaire les besoins essentiels des personnes en détresse, en l'occurrence, être à l'abri de la faim. Rien ne peut justifier non plus que l'État confisque et décide en son nom propre sous quelle forme la fraternité et la solidarité citoyenne peuvent s'exercer. Cette décision est une nouvelle démonstration du harcèlement dont font l'objet les défenseurs des droits des migrants dans la région et remet en cause des libertés essentielles comme la liberté d'association et la liberté individuelle de prendre sa part à une action humanitaire. Avec les associations de la CAFI et la Fédération des acteurs de la solidarité, Amnesty International demande aux autorités françaises de revenir sur leur décision d'interdire la distribution de nourriture par les associations humanitaires à Calais. Il est urgent que l'État reconnaisse et soutienne le rôle des associations plutôt que de continuer à entraver leur action. Merci de nous avoir écoutés sur Radio FM+, et on vous dit à bientôt dans une prochaine émission. Bonne journée à tous et à toutes.